Audiolib présente Les enfants des justes de Christian Signol, lu par Philippe Allard. À Germaine, ma grand-mère, qui donnait le pain. Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. René Char. Avant-propos. Le président François Hollande a qualifié récemment l'arrestation, l'internement et la déportation de juifs de « crimes commis en France par la France ». J'aurais préféré entendre « l'État français ». Coupable effectivement de tous ces abominables crimes, mais qu'on ne peut en aucun cas assimiler à la France de cette époque. Ainsi en ai-je été profondément blessé, tout comme j'avais été blessé par les propos de Jacques Chirac en 1995. Non pas pour moi, mais pour mes parents et mes grands-parents. Mon père s'est engagé pour la durée de la guerre contre les nazis, puis a été réfractaire au STO parce qu'il ne voulait pas travailler pour Hitler, et ensuite résistant dans les groupes Veni, réseau Buckmaster, sur les causes du Lot. Mes grands-parents, qui étaient boulangers, ont donné du pain à tous les réfugiés, espagnols, juifs, échoués de l'Exode, et dans mon village, pas un seul n'a été dénoncé. Ma France à moi n'est coupable de rien. Les héros de ce roman auquel je tiens tant, Virgile et Victoria, non plus. Ils ressemblent beaucoup à mon grand-père et à ma grand-mère. Non physiquement, mais par leur bonté naturelle, leur absence de préjugés envers qui que ce soit, leur refus du malheur. Ma France, c'est celle-là, celle de la résistance à la barbarie nazie et celle de l'humanité généreuse. Celle de l'humilité, du silence et du courage. Celle dont je suis fier et dont je me sens gardien vigilant de la mémoire, sans loi mémorielle ni repentante. Christian Signol. Première partie. Chapitre 1. La nuit de mai sentait le lilas et les feuilles nouvelles qu'un vent léger caressait. Une lune de sucre éclairait le chemin qui filait droit vers la rivière, entre deux haies fleuries d'églantiers. Virgile n'avait pas peur. Il était seulement impatient de savoir ce qu'il trouverait de l'autre côté. Mais il aimait la nuit. Elle lui était familière, n'avait jamais été menaçante. Au contraire, ce monde, sans homme, comme neuf, lui semblait rendu à ses origines, lavé de tout péril, immergé dans la paix d'une vie dont il s'efforçait de goûter chaque seconde. Il marchait sans hâte sur le sentier, se remémorant le soir de la semaine passée où, rentrant chez lui à 7 heures, il avait aperçu une voiture dans la cour. Son cœur s'était emballé, d'autant qu'il lui avait semblé qu'il s'agissait de la Delage du médecin, une voiture qu'il aurait reconnue entre toutes, puisque le docteur Dujarric était le seul à en posséder une. Malgré la chaleur de cette fin du mois de mai, qui portait déjà les prémices de l'été, Virgile avait pressé le pas tout en s'essuyant le front. Quand il était parti, vers 4 heures de l'après-midi, sa femme, Victoria, ne s'était plainte de rien, n'avait pas cherché à le retenir, mais peut-être s'était-elle sentie mal à cause, précisément, de ces premières chaleurs que l'opulence des arbres et des prés semblait retenir prisonnière. Or, malade, Victoria ne l'avait jamais été. Rien n'aurait pu, semblait-il, l'empêcher de se lever la première le matin, de s'occuper des volailles, du jardin, de l'aider, lui, Virgile, dans son atelier quand c'était nécessaire, de venir à bout de toutes les tâches ménagères auxquelles elle faisait face sans se plaindre, et, au contraire, avec une énergie souriante dont elle ne se départait jamais. Et pourtant, Virgile savait qu'il y avait une blessure en elle. À 42 ans, elle n'avait pas pu avoir d'enfant.